Bonjour. Je vais déjà faire trois choses. La première, vous apporter les salutations d'une église sœur, celle du CEP à Saint-Maur, donc que nous avons fondée en 1979. Alors, voilà, je vous apporte les salutations. Nous avions le culte ce matin. La deuxième chose, je vais vous saluer en tant que voisin, parce que nous habitons à 10 minutes à pied, et donc nous connaissons bien ce quartier. Et la troisième chose, je vais souhaiter la bienvenue à Esther Aucel en tant que président, mais je ne serai pas là quand tu viendras, alors je te souhaite déjà la bienvenue. Le livre de l'Apocalypse n'est pas l'un des chefs-d'œuvre de la littérature ésotérique. Il n'est pas la référence du roman fantastique, ni le livre culte d'une génération. Si sa lecture peut facilement solliciter notre imaginaire, sa compréhension, pour partie, ne peut s'envisager que dans une attitude d'humilité face à l'extraordinaire fresque que sa lecture nous dévoile. Alors que les évangiles nous retracent le récit du passage terrestre de Jésus-Christ, que les apôtres nous transmettent au travers des épîtres les bases doctrinales utiles à l'approfondissement de notre foi et à sa mise en pratique au quotidien, l'Apocalypse nous place devant un récit dont la portée nous échappe et dont le langage teinté de symbolisme nous interroge. C'est sans conteste le livre le plus difficile de la Bible. Comme pour l'ensemble du récit biblique, c'est sous la conduite et l'éclairage du Saint-Esprit que nous nous devons d'aborder ces textes, non pas seulement pour améliorer nos connaissances, mais afin qu'ils contribuent à notre édification et à notre croissance spirituelle. Notre étude et notre méditation de ce livre doivent se garder de forcer les textes dans leur explication et nous rendre prudents quant à nos affirmations, du moins dans tout ce qui n'apparaît pas explicitement dans le récit. Nous avons donc le droit, sans être hérétiques, de ne pas partager pleinement certaines interprétations. Et nous devons aussi d'accepter d'évoluer dans notre compréhension. Grandir, ce n'est pas se renier. Nous adopterons donc comme principe le conseil de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens 5, 21, « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Nous avons lu le texte, le chapitre 1. Dès le début du livre, le sujet est annoncé. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Dieu est donc l'origine de cette révélation. La part de l'homme, en l'occurrence celle de Jean, consiste à recevoir cette révélation et à la transmettre. Il en est le dépositaire, mais aussi sur l'injonction de Dieu, il est aussi celui qui, par moment, nous cachera certains aspects de la révélation. Ainsi, au chapitre 10 et au verset 4, le texte dit « J'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas ». Il serait donc cependant réducteur de penser que Jean n'est qu'un scribe, qu'un écrivain attentionné. En le choisissant, Dieu le prend comme confident. En cette fin du premier siècle, Jean est à Patmos. Oh, non pas pour y couler une retraite bien méritée. Il est en exil, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il partage les tribulations, mais aussi l'espérance des autres frères. Ses collègues apôtres ont déjà quitté cette terre. Et la relation entre les chrétiens et l'empereur Domitien qui règne à ce moment-là tourne au conflit. Deux loyautés s'opposent. Rendre un culte et une reconnaissance sans condition à l'empereur, devenu divinité, ou demeurer attaché au Dieu trinitaire. Comme l'écrit le philosophe chrétien Francis Schaeffer, n'oublions pas pourquoi les chrétiens ont été tués, écrit-il. Ils n'ont pas été tués parce qu'ils adoraient Jésus. Personne à cette époque ne se souciait de qui adorait qui, aussi longtemps que l'adorateur ne mettait pas en cause l'unité de l'État. Aujourd'hui, dans notre démocratie laïque, on parlerait d'atteinte à l'ordre public. Et Francis Schaeffer de continuer, la raison pour laquelle les chrétiens furent tués est qu'ils étaient des rebelles. Ils adoraient Jésus comme Dieu et ils l'adoraient comme le Dieu seul, le seul Dieu infini et personnel. Les Césars ne pouvaient tolérer cette adoration unique du seul Dieu. Cela était considéré comme une trahison. C'était donc un conflit politique du point de vue romain et un conflit religieux du point de vue chrétien. Jean, c'est ton frère qui se présente dans cette lettre. Moi, Jean, votre frère. Il n'est pas l'ancien des deuxième et troisième lettres qu'il écrit. Il n'est pas le disciple que Jésus aimait. Il est encore moins le grand initié qui jouit du privilège de la révélation. Ce qu'il reçoit comme révélation le dépasse. Et c'est parce qu'il est saisi par l'Esprit, comme dit Apocalypse 1 et verset 10, qu'il va pouvoir entamer la tâche qui lui est assignée. En lisant l'Apocalypse, nous cherchons à comprendre la signification de ces scènes étranges et grandioses qui nous sont décrites. Au risque de passer à côté de certains détails qui mériteraient que nous nous y arrêtions. Ces détails peuvent être une source d'inspiration et d'édification qui peuvent contribuer à notre ressourcement et nous permettre de reconsidérer certains aspects de notre vie personnelle et communautaire. Alors la méditation que je me propose d'avoir avec vous tournera autour des versets 9 et 12 du chapitre 1. Le premier de ces points est au verset 10. Jean est saisi par l'Esprit. Jean n'est pas saisi par l'Esprit parce qu'il avait besoin d'une nouvelle dimension spirituelle dans sa vie chrétienne, ni parce que sa foi était devenue tiède. Mais face à la situation à laquelle il va être confronté, sans une confirmation claire que c'est Dieu qui est à l'œuvre, alors pour lui, aucune possibilité d'aller plus loin. Pour Jean, saisi par l'Esprit, il ne fait aucun doute que ce qui va suivre émane d'une autorité divine qui confond toute sagesse et ébranle tout raisonnement humain. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons le privilège de connaître la suite, nous mesurons la nécessité de cette intervention divine pour ne pas confondre notre propre imaginaire et le propre imaginaire de Jean et l'incroyable révélation qui va lui être donnée de transcrire. nous ne serons jamais appelés à recevoir une telle révélation. Peu de serviteurs ont eu le privilège d'en être les témoins. Mais nous n'en demeurons pas moins devant le besoin d'un renouvellement spirituel permanent pour nous permettre d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Nous pouvons construire des stratégies pour l'Église, construire des stratégies pour évangéliser ou pour former des disciples. Nous pouvons initier des projets, encourager les initiatives, multiplier les rencontres fraternelles et les cellules de prière. Nous pouvons même développer une vision. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans notre vie personnelle et dans notre action communautaire, alors nous risquons d'entretenir une insatisfaction permanente ou de nous leurrer quant à l'image de notre Église et être comme celle de Sardes, c'est-à-dire « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Sardes existe, mais ne vit pas. Et l'Église de Jésus-Christ, dans sa dimension locale, peut parfois exister et ne pas vivre, parce que l'Esprit n'y est plus. Notre fidélité dans l'accomplissement de notre ministère ou dans notre marche chrétienne au quotidien dépend de notre sensibilité à l'action du Saint-Esprit, dépend de notre attention à la voix de celui qui nous interpelle, dépend de notre obéissance aux exigences que le Seigneur nous adresse. Cela peut nous paraître accablant ou trop lourd à porter. Mais c'est la seule voie qui nous soit offerte pour accomplir sa volonté, pour entrer dans son plan et faire les bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées pour nous. C'est à cette fin qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour qu'il réside en nous, pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous console quand c'est nécessaire, pour qu'il nous assiste en tout temps, pour qu'il nous transforme en permanence, pour qu'il nous fortifie, nous sanctifie et nous permette de servir selon les dons qu'il a donnés à chacun. Mais alors, me direz-vous, où est notre part? Quelle est notre contribution? De quoi pouvons-nous nous glorifier? La réponse tient en un seul mot, rien. 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 A contrario, nous ne sommes pas rien aux yeux du Seigneur. Nous sommes ses créatures. Nous sommes l'objet d'un amour infini, d'une tendresse sans limite, d'une attention permanente. Laissons-le simplement saisir par lui et par son esprit. La deuxième remarque que je voudrais faire, qui passe aussi inaperçue, c'est toujours dans le verset 10. Il entend derrière lui une voix forte. Vu l'âge avancé de Jean qui approchait le siècle, on peut aisément imaginer que son ouïe était défaillante. Mais cela nécessite-t-il pour autant que le volume soit aussi fort que celui d'une trompette? Je pense que dans cette manifestation, il y a un avant-goût de la puissance de la révélation qu'il va être amené à découvrir. Majesté, puissance, souveraineté vont apparaître de manière permanente tout au long de la vision qui lui est accordée. Mais, Comme cet après-midi, pour notre part, il s'agit d'une méditation, ne pourrions-nous pas nous demander pour nous-mêmes si Dieu, pour se faire entendre, n'est pas quelquefois obligé de hausser le ton. Notre génération ignore le silence et vit en permanence dans un environnement sonore préjudiciable à une écoute sérieuse, attentive et soutenue. Quand j'ai dit à Laura que je parlerai 1h30, elle m'a dit non, c'est pas possible. C'était une plaisanterie. Et quand un jour, je fais une petite digression, nous avons reçu à Paris Nation le célèbre serviteur Baxing, il a commencé en disant, d'abord il s'est déchaussé, il a marché pieds nus, il a commencé en disant, je vous épargnerai, je ne parlerai 1h30 parce que je sais que vous ne tenez pas 4 heures. Notre génération, je reprends, ignore le silence et vit en permanence dans un environnement préjudiciable à une écoute sérieuse, attentive et soutenue. Nos amplis et nos sonos couvrent bien trop souvent les paroles des cantiques qui nous invitent à élever notre cœur vers Dieu et bien des voix concurrencent celles de notre Seigneur. Elles viennent perturber notre attention et risquent de rendre inaudible le message ou la parole que Dieu veut nous adresser. C'est ainsi que notre oreille, parfois un peu sélective, nous invite à évacuer ce qui ne répond pas à nos aspirations et à nos attentes. Nous préférons à ce moment-là faire la sourde oreille et laisser notre attention se polariser sur des propositions plus alléchantes, plus en adéquation avec notre besoin de ressenti. Nous ne sommes plus dans le siècle du raisonnement et de la réflexion, mais du ressenti et du bien-être. Alors, si à ce moment, la voix de Dieu se fait plus forte, plus insistante, considérons-le comme une grâce et soyons reconnaissants, car Dieu continue à nous parler. Il n'en a pas fini avec nous. Il veut attirer notre attention, nous détourner du superficiel pour considérer l'essentiel. Troisième remarque de méditation sur ce texte, au verset 12. Au verset 12, nous assistons à une scène un peu déconcertante. On va commencer par deux choses qui nous interpellent. Peut-être vais-je le relire. Je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. La première remarque que je ferai, c'est qu'apparemment, Jean ne reconnaît pas la voix qui s'adresse à lui. Or, nous comprenons en lisant ce texte, parce que nous pouvons le lire, nous, que cette voix, c'est celle du Seigneur lui-même. Comment se fait-il que Jean, le disciple que Jésus aimait, celui qui l'avait accompagné au pied de la croix, ne reconnaissent pas la voix du Maître? Jean, jusqu'à ce jour, n'avait connu que 2 facettes de son Seigneur. Celle du Maître marchant à ses côtés pendant 3 ans, sur les sentiers de Palestine. Puis, celle du ressuscité qui leur était apparu pendant 40 jours. Il n'avait aucune idée de la voix et de l'aspect du Seigneur dans sa gloire. Le souvenir qu'il gardait de son Seigneur était un souvenir humain. Désormais, quand il s'adresse à Jean, Christ est au ciel. Il siège à la droite de Dieu. Et la vision que nous en avons au quotidien est désormais bien trop petite, imparfaite et tellement loin de la réalité que nous sommes placés devant le même constat que Jean. Et Jean est obligé de le constater. Je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Oui, cela nous interroge. Se pourrait-il que Dieu nous parle, non pas physiquement, mais par l'intermédiaire de sa parole, et que nous ne reconnaissions pas sa voix? Ou pire, qu'il nous parle et que nous l'ignorions? Nous avons, grâce aux apôtres, le privilège de la transmission écrite qui nous présente les différents aspects de notre Seigneur. Mais est-ce suffisant? Nous devons donc nous poser la question pour savoir sur lequel de ces aspects va notre préférence, ou si notre aspiration est d'en connaître aussi les différents aspects de notre Seigneur, Sauveur et Seigneur. Bien trop souvent, nous nous arrêtons au Sauveur, car il nous fait tellement de bien. C'est lui qui a pardonné nos péchés. C'est lui qui plaide auprès du Père. C'est lui qui nous a réconciliés. C'est lui qui est à nos côtés. Mais il est aussi Seigneur. C'est lui qui nous demande d'obéir. C'est lui qui nous demande d'abandonner certaines choses qui nous tiennent à cœur. C'est lui qui veut que nous marchions à sa suite, sachant que, à son exemple, c'est l'opprobre, la haine et peut-être la persécution et la mort qui nous attendent. C'est aussi ça, les différentes facettes de notre Seigneur. Et encore, en étant sur cette terre, nous ne faisons que en connaître ce que théoriquement nous découvrons au travers de la parole ou de ce que nous découvrons au travers de notre expérience personnelle. Mais comme Jean, nous n'avons aucune idée de ce qu'il est dans sa gloire. Aucune idée. Puis ma seconde remarque dans première partie du verset 12, c'est de constater que celui qui s'adresse à Jean est derrière lui et que Jean est amené à se retourner. Il se trouve donc mal orienté par rapport à son interlocuteur. Il faut, pour le visualiser, qu'il fasse un demi-tour par rapport à sa position, et c'est la seule condition pour qu'il puisse le voir. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas pourquoi Jésus a choisi cette situation. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce pour lui laisser le temps court, mais utile, pour se préparer à découvrir ce qu'il allait lui être dévoilé? Nous n'en savons rien, mais c'est sans aucun doute, intentionnellement, que les choses se passent ainsi. Alors cela nous invite de nouveau à nous interroger. Nous interroger pour savoir si nous sommes toujours bien orientés quand Dieu vient à nous. Pour savoir si nous sommes dans le bon sens quand il nous parle. Restons-nous dans nos habitudes, dans notre connu sécurisant, attachés à nos certitudes et déterminés à ne pas changer ce que nous avons jusqu'ici considéré comme une règle, biblique même, on ajoute. Eh oui, et Dieu bouscule. Il nous dit « t'es mal orienté ». C'est pas ta théologie que je conteste. Ce n'est pas ta manière. Mais pour me voir, c'est pas le sens dans lequel tu vas où tu pourras me voir. Tu as besoin de te retourner. Car Dieu parle tantôt d'une manière. Avec Élie, c'était dans un murmure. Tantôt d'une autre, pouvant nous obliger à changer de position ou d'orientation pour voir une autre façon de l'aborder, lui, le Seigneur. L'aventure chrétienne est une vie et notre découverte de Dieu ne peut pas demeurer figée. Quatrième et dernière remarque dans le verset 12. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. La vision est impressionnante et le sentiment qui s'en dégage est fait de puissance, de majesté, d'autorité, de pureté, c'est tout ce qui nous est décrit après dans la vision, d'éclat, ce qui la rend insoutenable pour le commun des mortels. Jean ne peut y résister et au verset 17, il nous dit qu'il tombe à ses pieds comme mort. Comme mort. Quand nous pensons que nous nous mettons à genoux parfois pour prier, si toutefois nous nous mettons à genoux, ça peut nous arriver. Dans quel esprit le faisons-nous ? Jean est tombe à genoux comme mort. Nous ne pouvons pas nous imaginer la distance qui peut exister entre notre nature humaine, même régénérée et même sanctifiée, et la nature divine de Jésus-Christ. Mais ce qui surprend dans cette vision, c'est l'ordre dans lequel Jean va découvrir le tableau. En effet, ce qui apparaît en premier, ce sont sept chandeliers d'or, puis au milieu, dit le texte, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, mais dont la description qui nous en est faite nous indique qu'elle dépasse Jean, car ce fils de l'homme, au verset 18, il s'agit bien de Jésus-Christ dans sa gloire. Il se présente, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Waouh ! C'est lui. C'est le maître. Mais c'est plus le maître humain. C'est le maître dans sa gloire. Des visions du Christ, Jean en avait connu. La transfiguration, le Christ ressuscité, et même l'enlèvement au moment de l'ascension. Mais jamais le Christ glorifié. Jamais il avait eu une telle vision. L'explication des sept chandeliers comme des sept étoiles nous est fournie dans la suite du texte à la fin du verset 20. Mais ce qui est intéressant, et ce sera ma première remarque dans notre démarche de méditation toujours, c'est de s'arrêter un instant sur cette scène. Et la première remarque donc, Jean voit d'abord les chandeliers avant de voir la personne qui est au centre. Les chandeliers étant les sept églises, nous sommes tentés de considérer qu'ici-bas, avant de voir Dieu, avant de voir Jésus-Christ, les hommes voient en premier l'Église. Ainsi, notre témoignage en tant que peuple de Dieu constitue un repère dont la lumière qu'il dégage n'est pas destinée à éclairer le chandelier, regardez comme je suis beau, mais celui qui est au centre. C'est pas pareil. Les chandeliers sont importants, mais ils ne sont pas l'objet principal de la vision. Ils sont là pour éclairer, pour guider vers la vision. Ils permettent de découvrir l'essentiel, ce qui est au cœur, ce qui est au cœur. Dieu a voulu que l'Église soit un témoignage de son infinie et variée sagesse, non seulement pour les dénominations et les autorités célestes, elles nous connaissent, elles savent, mais surtout et avant tout pour les hommes éloignés de lui. Ainsi, nous sommes en droit de penser que si le chandelier n'est pas à la bonne place, ou si celui-ci est éteint, il ne remplit pas son rôle, et il constitue même un handicap pour ceux qui le cherchent en ne contribuant pas à la mission qui est la sienne, c'est-à-dire sel et lumière. Alors, comme pour l'église d'Éphèse, dans cet avertissement, puisqu'ils avaient perdu leur premier amour, ils ne rayonnaient plus, il peut même être appelé à disparaître. À disparaître. C'est un avertissement pour chacune de nos églises locales. Seconde remarque, la vision qui nous est faite du Christ nous invite à peut-être réviser l'image que nous nous en faisons. Ce n'est pas un Christ copain. Ce n'est pas un homme de la même nature que nous. Même s'il a été parfaitement homme, et s'il n'a pas honte de nous appeler frères, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 2 et au verset 11, il n'en demeure pas moins Dieu, dans sa puissance, dans sa majesté, dans sa pureté et dans son autorité. C'est donc avec respect que nous devons nous approcher de lui. Je n'aime pas trop ces chants qui considèrent un peu notre Seigneur comme le bon copain. Il est notre frère. Il a même dit à ses disciples, « Je vous appelle ami. » C'est fort comme terme. Mais il est avant tout notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur. Alors nous pouvons nous approcher quand même avec près de lui sans crainte, mais avec confiance, car il nous aime d'un amour infini et éternel. Comme Jean, c'est à ses pieds qu'il convient de nous tenir, pour une raison très simple, afin que sa main, comme le dit le texte, se pose sur nous. Jean tombe à ses pieds comme mort, et la main se pose sur lui. Cette main et cette voix qui nous rassurent, et comme pour Jean lui dit, ne crains point, ne crains point, comme nous aimons entendre ces paroles, dans nos angoisses du quotidien, dans nos interrogations du journalier, dans nos décisions à prendre quand il faut changer d'emploi, mais quand il faut aussi prendre d'autres décisions qui sont parfois fondamentales. Comme nous avons besoin d'être rassurés avec cette voix douce et bienveillante qui nous dit « Ne crains pas, ne crains point. » Car c'est ainsi que sa main se posant sur nous nous permettra d'accomplir la mission qu'il va nous confier. Alors pour conclure ces quatre remarques qui ont fait partie d'une méditation. Il ne s'agissait pas d'une étude biblique. Mais il est bon parfois de partir avec ces textes, de les écouter, de les reprendre dans la semaine, dans le métro, dans le RER ou au volant de la voiture. Ça évite d'insulter celui qui vient de nous faire une queue de poisson. Et de repenser en méditant à ce qu'il est. Ce texte est trop riche pour faire l'objet d'un seul message, vous le comprenez. C'est pourquoi j'ai tenu simplement à souligner quelques aspects que nous sommes parfois tentés de négliger pour nous intéresser aux passages plus énigmatiques, celles qui, si des fois on pouvait découvrir quelque chose, ferait de nous quelqu'un de plus intelligent, de plus éclairé bibliquement. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande simplement d'être fidèles pour marcher avec lui. Découvrir l'ensemble de cette révélation qu'est l'Apocalypse, c'est entrer dans une béatitude. Et c'est bien ainsi que commence le livre de l'Apocalypse au chapitre 1 et au verset 3. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Lire, entendre, garder. Car le temps est proche. Puissions-nous considérer ces paroles comme celles d'un temps dans lequel veut nous utiliser pour son service, chacun à notre part et chacun dans le champ qu'il nous a imparti. Prions Dieu. Seigneur, ces textes sur lesquels nous avons médité, c'est ta parole. S'il y a des choses qui ont été humaines dans ce qui a été dit, Seigneur, enlève-le. Mais tout ce qui est pour toi, Seigneur, tout ce qui peut contribuer à notre croissance spirituelle et à la gloire de ton nom, alors utilise-le en nous, par nous et avec nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit et en tant qu'Église locale, nous voulons continuer à rayonner, non pas afin que, Seigneur, ils connaissent notre dénomination ou la manière dont nous faisons les choses et nous chantons les belles louanges que nous chantons, mais que parce qu'ils verront au centre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qu'ils veulent découvrir. Quelqu'un qu'ils cherchent et qui réponde à leurs aspirations. Toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Christ, le vivant, l'Éternel. Oh, combien nous te bénissons de pouvoir simplement être tes porte-paroles, tes serviteurs, tes esclaves, dans le bon sens du terme, Seigneur. Parce que toi, tu nous conduis dans les sentiers paisibles et tu nous ressources en permanence. Merci pour l'espérance que tu laisses dans nos cœurs, que ce que Jean a vu et la manière dont il t'a vu, nous te verrons aussi, Seigneur. Nous nous en réjouissons et nous t'en bénissons. Amen.